RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes toujours à Laval, dans notre magnifique champ, en bordure de la ligne d'arrivée, environ 3 km de la ligne d'arrivée, pour cette huitième étape du Tour de France, qui a donc vu la victoire d'un Golgoth italien nommé Jonathan Milan. Il possède tous les surnoms. On va évidemment vous parler de ce garçon incroyable, le colosse de Bugia, c'est en Italie, c'est dans le Frioul. On l'appelle aussi El Gigante. Bref, il a plein de surnoms, et c'est vrai que c'est un garçon particulier, avec un physique plus de troisième ligne de rugbyman que de coureur cycliste. Il ressemble très peu à Jérôme Pinault et à Jérôme Coppel, nos consultants, les GG au carré, qui sont en pleine forme.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous.
Il vous domine de trois têtes à peu près.
Ouais, facile. Il y en a deux comme lui, il y en a deux comme moi dans lui, mais pas en épaisseur, en hauteur. En épaisseur, je suis large.
Il nous domine en taille et en talent, je pense. Ouais. Largement, largement.
Ah, au sprint, oui, mais c'était pas votre truc, le sprint.
On cherche toujours ce qui était notre truc, le problème avec GG. On est toujours en recherche 10 ans après.
Dévaloriser, c'est pas vrai.
Tu disais que Milan avait un physique de quel poste au rugby ?
De troisième.
Moi, plus pilier, moi.
Pilier de barre en ce moment, plutôt.
Mariazé observe le numéro de duétiste de nos GG. Ils sont magnifiques.
Ils sont incroyables.
Je ne regrette pas d'être dans le camion.
Non, jamais.
De temps en temps,
non, j'ai passé une très bonne journée avec eux.
Jérôme Coppel était sur la moto aujourd'hui.
C'est pour ça que tu as passé une bonne journée.
Il s'est régalé sur la moto de nos GG.
Je me suis régalé d'avoir pu aller dans la colonne de course derrière le peloton. Là, on a vu des coureurs, on a vu tout le petit balai des voitures, tout ce qui s'y passe. Ça rappelle des bons souvenirs. Et ça m'a rappelé que le cyclisme, encore plus le Tour de France, c'est un miracle perpétuel qui ne se passe rien. Parce qu'entre les voitures, les motos, les coureurs qui remontent, qui ont une crevaison, il y a des coups de frein de partout, mais tout le monde rentre plus ou moins en un seul morceau.
Même s'il y a encore eu quelques chutes, on en reparlera tout à l'heure, après les gamelles terribles d'hier, et notamment celle de Joao Almeida, qui a malgré tout tenu à tenir son rang aujourd'hui, et qui l'a tenu, qui a terminé l'étape. On espère évidemment qu'il va vers des jours meilleurs. C'est donc un Italien, Jonathan Milan, qui s'impose aujourd'hui dans cette huitième étape réservée aux sprinteurs. Il y a bien eu une tentative, mais celle-ci n'a pas pu aboutir. Milan s'est imposé sans coup férir à l'arrivée à Laval. C'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France, la huitième étape aujourd'hui de la Grande Boucle. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes sur les routes de l'Ille-et-Vilaine et nous allons nous diriger vers la Mayenne avec l'arrivée tout à l'heure à Laval. C'est donc une étape aujourd'hui plutôt tranquille pour les leaders du classement général.
75 km de l'arrivée et ça y est, c'est parti messieurs, une échappée, la première échappée de cette matinée, échappée créée par la formation Total Energy, Mathieu Burgaudeau et Matteo Vercher.
Et Mathieu Burgaudeau n'a plus que quelques secondes, quelques mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton alors que celui-ci passe sous la banderole des 10 derniers kilomètres de cette 8e étape. Il a fait le métier Burgaudeau avec Vercher qui lui a été repris il y a quelques instants, donc c'est un peloton groupé qui va aborder les 10 derniers kilomètres de cette étape.
RMC, la flamme rouge.
Jonathan Milan qui est là. Wout van Aert dans sa roue. Jonathan Milan qui accélère. Tim Merlier n'est pas là. Son grand rival est Wout van Aert qui arrive à suivre Jonathan Milan dans ce faux plat montant. C'est dur. Milan. C'est une victoire de Jonathan Milan. C'était dur. Il a tout donné, mais il est arrivé un peu tout seul. Assez victoire, assez méritée pour Jonathan Milan.
RMC, l'After Tour.
La victoire donc de Jonathan Milan aujourd'hui, il avait vécu jusque-là un Tour de France un peu frustrant, battu lors de la première étape, pris dans la bordure, et puis ensuite battu par d'autres, notamment par Tim Merlier. Aujourd'hui, il prend sa revanche, Jérôme. Belle revanche. Hein. Cette fois-ci, il n'y a pas eu photo pour Milan. Il faut dire qu'il était débarrassé de ses principaux concurrents, et notamment de Tim Merlier.
Exactement. Non, il n'y a pas eu photo aujourd'hui. Il devait être frustré, et surtout sous pression, le coureur italien de l'équipe Lidl Trek, parce que toute l'équipe est tournée pour lui, est créée pour lui, a été créée pour lui, et bien sûr qu'il n'avait pas le droit de se rater aujourd'hui, tout comme ça sera le cas demain. Tu l'as dit, premier jour pris dans la bordure, il n'a même pas pu se disputer la victoire. La deuxième étape qui arrivait au sprint, il s'est fait battre par Tim Merlier. Voilà, quand tu étais sprinteur, c'est compliqué de pas pouvoir te présenter à l'arrivée, jouer la victoire, et deux, quand tu te fais battre, voilà, tu commences assez vite à cogiter. Ça avait déjà été le cas entre Tim Merlier et lui-même Jonathan Milan au Giro l'année dernière, où ils avaient gagné 3 victoires chacun. Donc c'est vraiment les deux gros sprinteurs là de ces deux dernières années, hors Tour de France, on va dire, parce que Milan et Tim Merlier n'étaient pas sur le Tour de France l'année dernière. Sur le Tour, c'est Philipsen ces dernières années qui dominait un petit peu tout, mais Milan est peut-être parti. Maintenant, il a peut-être débloqué un peu aussi dans la tête. Il a pris la mesure du Tour de France et il va peut-être dominer les sprints, les prochains sprints cette année et les années à venir.
Un style très particulier que celui de Jonathan Milan dans le sprint, mon cher Jérôme, avec la tête qui monte de haut en bas, une impression de puissance incroyable.
Sa taille, sa puissance et sa cadence de pédalage font qu'il a l'impression qu'il sautille sur le vélo quand il a pleine puissance. 1m96 pour 87 kilos quand c'est lancé à vive allure, ça déménage, le vélo a d'être solide.
Il faut que la potence soit bien accrochée.
Et en plus, il a une très très forte cadence qui lui vient de la piste, parce que c'est à bord aussi et avant tout un pistard. Il est venu sur la route, il est sprinter, mais il est aussi champion olympique de poursuite par équipe. Donc, c'est un coureur qui est très puissant, atypique, à l'inverse de cette tradition italienne des beaux sprinteurs bien en ligne, où on fait d'abord attention au style.
Petacchi avant Cipollini.
Petacchi Cipollini. Fils d'un sprinter aussi, Flavio, son père, qui a été 2 années pro chez Amorevita. Et puis son petit frère aussi évolue maintenant dans l'équipe développement de Lidl Trek. C'est un immense gabarit, très puissant. Il en joue beaucoup avec les épaules. Il déménage, comme on dit. Il est parfois limite de la régularité. Encore aujourd'hui, il en a enlevé un ou deux. Poussez-vous, c'est moi qui y vais.
Ouais, parce qu'il était bien enfermé quand même, à 200 mètres de la ligne.
Après, quand t'as un gabarit qui fait 1m97, même si tu fais 1m70, 1m80, pardon, t'as 15 cm d'écart avec le mec à côté. Ça veut dire que le guidon, il est au-dessus. Donc tu t'écartes, hein. Tu dis, vas-y, mon grand, déboule. Et puis moi, je vais me mettre derrière. Et on l'a vu une fois qu'il est lancé, qu'il a pris sa ligne, qu'il s'est mis. Il a lancé le sprint en même temps que Groves. Et on a vu tout de suite que Van Aert était incapable de doubler.
Mais il était un peu enfermé, je le disais. Il n'avait pas vraiment tout son train non plus, Maria. Il a su justement bien naviguer dans ce sprint.
Ouais, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Tim Merlier qui se débrouille un peu tout seul quand il a notamment remporté la 3e étape du Tour de France. Et ben, il a fait un peu pareil, Jonathan Milan aujourd'hui, un peu tout seul. Bon, même si ses coéquipiers avant l'avaient quand même bien remonté pour bien le positionner, mais ouais, il est quand même, il a quand même terminé tout seul et il s'est imposé en puissance, on va dire.
Ouais, il a été lancé par Mathieu Van Der Poel, hein, parce que il a suivi, il a profité du train de Van Der Poel pour lâcher les chevaux. Il a attendu que Mathieu s'écarte, et lorsque Mathieu s'écartait un petit peu pour ouvrir la porte à Caden Groove, parce que c'est du grand art ce qu'a fait Van Der Poel, a mis tout le monde en ligne, mais il a juste laissé une porte à gauche pour abriter Grooves, et lui il a pris rond-point à droite complet, Milan, et il a lâché les chevaux. On a vu son poisson pilote qui devait être le dernier homme, Simone Consoni, très loin, hein, mal placé et pas incapable de faire son boulot. Comme quoi, les trains c'est bien, mais quand on a le plus fort et le plus vite, c'est encore mieux.
Jonathan Milan, évidemment, ravi. Il avait la pression après un début de tour, je vous le disais, frustrant, ravi donc de cette victoire, d'autant qu'il récupère le maillot vert du classement par points. On l'écoute.
Je pense que je ne réalise pas encore ce que nous venons de faire. On est venu avec des attentes et des rêves, et là, les réaliser, c'est fou. J'étais confiant en l'équipe aujourd'hui, on n'était pas loin de la victoire la dernière fois. Aujourd'hui, on était focus et on y a vraiment cru.
Voilà, on y a vraiment cru. Il a eu raison d'y croire parce qu'il était quand même le plus costaud aujourd'hui. On s'intéressera tout à l'heure à ses concurrents, notamment à Merlier. On verra qui vous semble le meilleur sprinter aujourd'hui de ce Tour de France et peut-être du sprint mondial, parce que c'est quand même là qu'on retrouve les meilleurs sprinteurs. Quand tu as Philipsen, Guirmay, Milan et Merlier au départ du Tour, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions de briller cette année, tu as quand même les quatre meilleurs du moment. Hein.
Ouais, et c'est vraiment.
Il manque qui finalement dans les grands sprinteurs présents au départ de ce Tour?
Bonne question. Là, tout de suite, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'idée. Bah, après, ils sont dans la même équipe, donc compliqué. Mais Mats Pedersen, qui va aussi très, très, très vite, mais il est dans la même équipe que Jonathan Milan. Là, vraiment, le point noir du tour, c'est la chute de Philipsen et son abandon. Parce que là, on aurait vraiment vu qui de Merlier.
Match à 3. Ouais.
J'ai même encore un peu de mal à mettre Guirmay dans cette catégorie-là. Pour moi, c'est vraiment Milan, Merlier et Philipsen, les trois plus rapides du peloton. Bon, peut-être que ça sera l'année prochaine. Et on est espère sans chute. Mais ouais, là, c'est aujourd'hui, si tu me dis qui de Milan ou Merlier est le plus rapide, je suis incapable de te répondre. Parce qu'on a vu Merlier l'autre jour aller quand même plus vite que Milan. Ouais, parce qu'il, alors, il y avait vent de face, il était abrité, il a réussi à le sauter au dernier moment. Aujourd'hui, il n'est pas dans le sprint, Merlier. Il faudrait qu'on sache pourquoi. On a vu qu'il avait eu un ennui mécanique ou un problème. Est-ce qu'il n'a pas pu remonter, reprendre sa place? Mais il faudrait vraiment les voir de nouveau, les deux, au coude à coude, sans pépin, sans un mauvais virage du vent de face ou quoi. Vraiment les voir en vitesse pure pour voir lequel est le meilleur des deux.
On a vu déjà un premier échantillon à Dunkerque où Merlier a gagné de quelques centimètres, quelques millimètres.
Là, c'était un vrai duel entre les deux. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux, ils avaient réussi à s'en sortir. Et donc, celui qui a eu la plus belle pointe de vitesse, c'était Merlier ce jour-là.
On peut avoir le deuxième acte dès demain, Châteauroux. Oui, la ligne droite est faite pour ça. C'est
un kilomètre 6 toute droite.
L'arrivée mythique, elle est une arrivée comme à l'époque, on parlait de Bordeaux, la ville des sprinters. Maintenant, les installations à Bordeaux urbaines sont telles qu'on n'arrive plus à arriver à Bordeaux tellement il y a sprint. Puis en plus, politiquement, on n'arrive plus à faire des courses de vélo. Mais à Châteauroux, c'est vraiment la ligne droite parfaite pour s'expliquer entre purs sprinters. On espère, pourquoi pas, demain avoir Merlier, Guermail et Milan sur la même ligne pour lancer le sprint ensemble. Et là, on verra qui est le plus rapide.
Alors, Maria va nous dresser le portrait de ce Jonathan Milan, issu de la piste, originaire du nord-est de l'Italie, comme Yannick Sinner d'ailleurs.
Les grands
champions italiens sont originaires du nord-est de l'Italie en ce moment.
Les grands champions italiens n'ont pas des têtes d'Italien. Il est né à Tolmezzo, au nord-est de Venise. En gros, c'est pas très très loin de la frontière autrichienne et de la Slovénie, d'où son physique un peu de pays de l'Est. Alors, il a commencé le VTT dès son plus jeune âge, Jonathan Milan, puis il a fait un peu de judo et de karaté, des gros sports de combat, d'où sa carrure un peu de goth. 1m96 pour 87 kilos, ça lui permet d'être surpuissant et d'avoir ce profil un peu atypique dans les sprints où on a l'impression vraiment qu'il va sortir de son propre corps limite. C'est sur la piste que Milan s'illustre lors des Jeux Olympiques, vous en avez parlé, de Tokyo, où il remporte le titre en poursuite par équipe avec Filippo Ganna et Simone Canzoni. Il a ensuite enrôlé au sein de l'équipe Bahrain Victorious, et c'est là qu'il jette un peu son dévolu sur la route, donc dès la saison suivante. Et c'est sur le Giro 2023 qu'il se révèle en remportant la deuxième étape et surtout le maillot cyclamen en fin de Giro. En 2024, il débarque chez Lidl Trek, vraiment le gros démarrage de sa carrière. Et à 24 ans, il a déjà un beau palmarès, 4 étapes sur le Giro, 2 maillots cyclamen, 1 étape sur le Critérium du Dauphiné notamment. Et la plus belle victoire de sa carrière aujourd'hui, sa victoire sur le Tour de France, sa toute première.
Oui, parce qu'une victoire sur le Tour de France, ça vaut 4 victoires sur le Tour d'Italie. On parle du point de vue français, évidemment.
Ah ouais, alors point de vue français, oui, j'allais dire, lui, il est italien. Alors peut-être que gagner sur le Giro, c'est plus important que gagner sur le Tour de France. Oui, d'un point de vue français, même lui, médiatiquement, il va voir là que ça y est, il est rentré dans une autre dimension. Je pense qu'il s'est rendu compte dès la présentation des équipes du Tour de France que le Tour de France n'est pas le Tour d'Italie ni le Tour d'Espagne, même si c'est deux grands tours formidables. Il s'est rendu compte de la ferveur populaire, des médias, des spectateurs au bord de la route. Et là, voilà, première victoire. Il va aller faire les conférences de presse. Demain, quand il va se présenter au départ, plus de monde vont le reconnaître. Là, il va vraiment se rendre compte qu'il est rentré dans une autre dimension et que le Tour de France amplifie vraiment tout. Les victoires comme les moments un peu plus durs qu'il a eu en début de tour.
Ouais, il a médiatiquement compris très vite et il va le comprendre dès demain parce que lorsqu'on gagne une étape du Tour d'Italie, on fait la une de la 4-7 à Dello Sport. Pas quand on gagne, pas quand on fait pas la une de l'équipe. En revanche, quand on gagne une étape du Tour de France, on fait la une de l'équipe, la une de la Gazzetta dello Sport et d'un grand, grand nombre de journaux. Et c'est là qu'on voit la différence entre ces deux événements. La portée d'une victoire sur le Tour de France n'a rien d'équivalent dans le monde du cyclisme.
Voilà qui fait du bien quand même au cyclisme italien. On rappelle que la dernière victoire d'étape d'un transalpin remontait à 6 ans en arrière. Ouais. C'était Vincenzo Nibali qui avait remporté le Tour de France aussi.
Le requin de Messine, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir une période aussi longue sans victoire italienne. Ça reste quand même une des grosses nations du vélo, une nation historique.
Même
la France,
plus d'équipe italienne.
Et ouais, il n'y a plus d'équipe italienne. Le vélo italien va mal. Nous, on parle souvent des équipes qui ferment. la tienne GG, celle d'Emmanuel Hubert d'Arkea BNB qui voilà, qui est un peu en danger, mais en Italie ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus du tout d'équipe. UAE, c'est un peu sur les restes de Lampre, etc., mais ce n'est pas une équipe italienne, quoi. Donc c'est le cyclisme italien, ils ont des très bons coureurs, mais ils n'ont pas d'équipe italienne.
Dernière équipe italienne World Tour avec cette identité là Liquigas, ça commence à dater. Avec Pippo Pozzato, avec Quinziato,
on les voit quand même briller sur le Tour d'Italie, les coureurs italiens.
Oui, mais tu vois toujours les Italiens autour d'Italie, dans une moindre mesure, les Suisses autour de Romandie, autour de Suisse, ils marchent toujours aussi. Ils sont très forts, ils sont là, sur la piste, ils sont bons. Filippo Ganna est excellent, ils ont vraiment des très bons coureurs. Mais
c'est vrai que Ganna n'a jamais gagné d'étape du Tour de France.
Non, pas encore.
On rappelle quand même que sans victoire d'étape, mais quand même, on a un coureur italien qui a brillé l'an dernier, puisque Giulio Ciccone était le meilleur grimpeur. Hein.
Oui, mais voilà, de nouveau, la différence entre être le meilleur grimpeur. Grimpeur du Tour, mais c'est pas qu'on l'a oublié parce qu'on suit le vélo et on sait qu'il a été meilleur grimpeur, mais une victoire c'est encore autre chose.
Ah oui, non, c'est sûr.
Mais c'est fou qu'une nation comme l'Italie n'ait pas d'équipe World Tour. C'est quand même incroyable pour une nation historique du vélo.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut guetter le cyclisme français? On a quand même encore pas mal d'équipes, même s'il y en a certaines
Ouais,
qui sont
mais des fois, on se demande si c'est pas ça aussi qui rend le... Enfin, est-ce que c'est pas une partie du problème d'avoir autant d'équipes françaises pro? C'est pas un problème, c'est pas ce que je suis en train de dire. Plus il y a d'équipes, plus il y a de coureurs, mieux c'est. Mais après, ça divise un peu aussi le choix des sponsors, etc. Mais peut-être que ça nous guette. Effectivement, on a encore beaucoup d'équipes, on a encore de la marge, mais on n'est pas à l'abri d'être comme l'Italie.
Oui, le pays... Va mieux depuis quelques temps. L'économie de l'Italie est meilleure avec l'arrivée au pouvoir de Meloni. Mais on met ça hors politique. Le pays se relance, mais il a connu des années très difficiles. Des grandes entreprises italiennes, il y en a. Les attirer vers le cyclisme, l'Italie est un pays comme la France où grand nombre, voilà, l'Italie,
c'est encore plus
le football, c'est religieux, c'est-à-dire que pour le même montant, il y a même pas photo si c'est la Juve ou si c'est une équipe de vélo, c'est pour dans chaque région, chacun est supporter de son club de foot. Et puis c'est un pays très très sport, il y a beaucoup de sport, beaucoup de champions. Trouver des finances pour une équipe cycliste professionnelle, c'est très difficile. Donc il va falloir évidemment guetter très près les jeunes Italiens. Jonathan Milan n'a que 24 ans, donc il est en train de grimper. C'est vrai que ça manque, cette équipe italienne, l'équipe de très haut niveau italienne avec un fort accent italien. Ça donne de la saveur au peloton.
Oui,
alors on retrouve des Italiens, mais nous on a connu les vraies équipes italiennes.
La Saico, la Fassa Bortolo, Lampre, Liquigas,
l'équipe de Pantani, Mercatone Uno.
En plus, ils avaient toujours la classe à l'italienne, les beaux vélos Saico, là leur maillot rouge, les vélos Cannondale rouge, c'était la classe, quoi. C'était la classe à l'italienne. Ça manque vraiment, je trouve. Une équipe italienne, c'est vraiment un truc qui manque dans le peloton actuellement.
Bon, en tout cas, ils ont trouvé un sprinteur de grande classe en la personne de Jonathan Milan, vainqueur aujourd'hui et qui tentera demain de décrocher une nouvelle victoire et de se rapprocher du classement final du maillot vert. Avant de parler de ce maillot vert, justement, un petit mot de l'un de ses rivaux d'aujourd'hui, Binyen Girmay, qui a vraiment du mal dans ce Tour de France, qui n'est pas dans le coup.
Binyam Girmay.
Ah, il va mal, Binyam. Il va très mal. L'année dernière, on se souvient il avait vécu un tour de France de rêve en remportant trois étapes ouais, plus le maillot vert. Qu'il n'aurait pas eu un peu de mal à digérer finalement cette renommée soudaine, parce qu'en Érythrée c'est devenu un héros national.
Mais il marche un peu par cycle, j'ai l'impression, Binyam Girmay. Quand il avait gagné son étape au Giro, on avait vu les images quand il était rentré chez lui, la foule, etc. Et pareil, après il avait eu du mal, on disait déjà ça, à digérer, à remettre en route. Il lui avait fallu bien une moitié d'année, presque une année avant de le retrouver. Et l'an passé, il marchait sur l'eau. Je veux dire, en plus d'avoir gagné ses étapes, le maillot vert, même les étapes difficiles, il était dans les coups, il prenait les points au sprint intermédiaire. Enfin, il était vraiment sur son nuage. C'est toujours dur d'enchaîner deux années au même niveau, mais là, c'est pas vraiment le même niveau. On sent qu'il est vraiment un ton en dessous de l'année dernière. Alors attention, la première étape, il va quand même faire deuxième. deuxième ou troisième, je sais plus. Il fait podium sur la première étape. On va voir demain, à voir si il est sec. Peut-être que la première semaine l'a déjà bien éprouvé. On sait qu'elle a été très dure. Ou voir si juste, voilà, mentalement, il n'est pas vraiment ultra concentré, peut-être ultra focus, ou en tout cas moins focus que l'an passé.
Ouais, ce qui est décevant pour Guirmay, c'est qu'aujourd'hui le sprint était un peu plus pour lui. Il a pas un énorme sprint à plat, même si l'an dernier il a aussi gagné à plat. Mais là, ce faux plat montant était pour l'avantager et on l'a pas senti capable d'être là. Alors même s'il était mal placé, quand tu marches, tu arrives à te replacer tout seul. La preuve, Merlier le fait. Aujourd'hui, Jonathan Milan s'est à peu près débrouillé tout seul. Donc c'est un peu plus aujourd'hui qu'on l'attendait. Il a été un peu décevant. Quand on parle d'enchaînement à sa décharge, rappelez-vous quand même la première victoire sur le Giro, il gagne l'étape, il va au podium, il ouvre le Prosecco, dans l'œil, abandon. Donc après, c'est sûr qu'il faut s'en remettre, mais c'est sûr, comme le dit Jérôme, il a des phases irrégulières et il est plutôt dans une phase où il est un peu moins bien en ce moment.
Un petit mot, Maria, du maillot vert, le classement par points qui était dominé jusque-là par Tadej Pogacar, qui a donc rendu sa tunique verte. Il garde évidemment la tunique jaune. C'est donc Jonathan Milan qui s'en empare avec 36 points d'avance. C'est pas énorme.
C'est pas énorme, non. 182 points pour Jonathan Milan derrière. Ouais, Tadej Pogacar n'est qu'à 36 points, 156 points. C'est vrai qu'il va falloir qu'il gagne demain. Il ira jouer.
Il ira jouer le sprint
intermédiaire,
ouais.
C'est sûr, mais il va falloir qu'il gagne parce que après dans les étapes de montagne, il n'en prendra plus des points. Jonathan Milan, ça paraît quand même un peu compliqué. Il reste 2 semaines de Tour de France.
En revanche, une chose est certaine, c'est que ce maillot vert ne semble pas intéresser grand monde, hein, mis à part lui. Le sprint intermédiaire, Merlier l'a fait, mais sans vraiment beaucoup de conviction. Guirmay de la même manière. Donc ça veut dire que s'il le veut vraiment, Milan va pouvoir remporter la plupart des sprints intermédiaires, ceux qui se disputeront avant la montagne, évidemment. Parce qu'après, une fois qu'il aura fallu passer un col ou deux, on le verra plus.
Hein. Exactement, on a parlé de son gabarit. Donc quand il y aura des départs un peu musclés, ça va être compliqué pour le coureur italien. Mais ce matin, j'étais dans les paddocks, j'ai discuté un peu notamment avec Intermarché Wanty. Ils n'ont pas fait complètement une croix dessus, mais tu sens qu'ils ne sont pas complètement dedans non plus. Ils n'ont pas parlé de Milan, ils parlaient plutôt de Tadej Pogacar. Ils disaient, au bout d'une semaine, il a déjà 2 victoires d'étape, il a déjà le maillot vert, ça va être compliqué, c'est là où on pensait empocher le plus de points. Donc il y avait quand même déjà pas mal de... Ouais, ils n'ont pas abdiqué, mais tu sentais qu'ils n'étaient plus vraiment dans le jeu, ou en tout cas dans la tête, ils n'étaient plus pour ce maillot vert. C'est vrai que la nouvelle réglementation de cette année pour le nombre de points aux arrivées avantage quand même beaucoup Tadej Pogacar s'il gagne 3, 4, 5 étapes. Ça va être très compliqué d'aller chercher le maillot vert, même pour Jonathan Milan. Et comme tu le disais, Maria, en fait, il n'a pas le droit à l'erreur. Les sprints intermédiaires qui sont à sa portée, il faut les prendre et il faut mettre au fond à l'arrivée.
Une victoire ou deux, une victoire d'étape, notamment demain, dans cette étape qui s'achèvera à Châteauroux et dont on parlera tout à l'heure. Il est 19h23, vous êtes sur RMC. L'After Tour revient dans une petite minute. On va parler quand même de la tentative. Alors, tentative suicide ou non, en tout cas, elle a eu le mérite d'exister, cette tentative, avec Burgodo et Verchet qui ont tenté, qui ont échoué, malheureusement. Mais ils n'ont pas tout perdu, puisqu'ils ont décroché tous les deux le prix de la combativité qu'ils ont dû se partager. Tout cela grâce à Maria Azé qui a voté et qui a déclenché cet élan en faveur de nos deux coureurs de la Total Énergie. 19h23, on revient dans quelques instants sur la ligne d'arrivée ici à Laval. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h28, vous êtes sur RMC, vous êtes bien sur RMC, c'est l'After Tour, nous sommes ensemble jusqu'au 27 juillet. Oui, il faut encore tenir 2 semaines, mon petit Jérôme, hein. Je sais pas si tu vas tenir le rythme. Hein.
Bah moi ça va.
T'es bien là, t'es bien lancé.
C'est plutôt pour toi que je m'inquiète.
Est-ce que Jérôme Coppel est rentré dans son
Alors cours, là, il est en train de progresser à une vitesse.
Ouais.
En plus, on a parlé tout à l'heure de heat training, il a fait de la moto, donc il a augmenter son volume plasma.
Exactement. Je pense que vu à l'allure où la clim pète, c'était d'abord derrière nous, maintenant c'est en bas, on va tous en faire du heat training, bientôt.
Déjà, tous les reporters font du heat training à l'extérieur du camion.
Ils c'est sûr qu'ils font pas du boulot parce qu'ils bossent pas beaucoup.
Voilà, 40 degrés quand même pour bosser, c'est pas facile. Hein. Du heat training, ça leur fait du bien. Et on va pas les plaindre non plus parce que ils sont quand même un peu en vacances, faut bien le dire. Nous avons donc vécu cette 8e étape avec la victoire victoire de Jonathan Milan. Alors c'était une étape promise aux sprinteurs, on le disait avant le départ de l'étape, 99% de chance de voir un sprinteur s'imposer. Bah, la raison des sprinteurs a prévalu aujourd'hui, même si certains ont quand même tenté. Alors ils ont mis du temps quand même, hein, Maria, parce que il a fallu attendre le sprint intermédiaire qui était situé à mi-étape pour voir enfin quelques baroudeurs tenter leur chance. Bon, malheureusement sans succès, mais au moins ils ont tenté leur chance.
Ouais, il a fallu attendre Vitré. C'est vrai qu'au début le peloton voulait rien laisser partir et on a vu Mathieu Burgodo et Matteo Verschi qui l'a suivi juste derrière partir. Quinn Simons qui roulait, qui s'est retourné, mais au final qui les a laissés partir. Et voilà, ça a été notre belle échappée, un peu notre soleil du jour quand même, parce que ça nous a donné quelques trucs à dire. Sinon les top courses étaient un peu platoniques.
Ouais, mais j'ai bien cru que Jérôme Coppel était encore parti pour une étape sans voir un coureur.
Ah bah c'était bien parti pour. Heureusement que c'est moi qui ai été les chercher à l'arrière du peloton, parce que c'est pas eux qui seraient venus me voir, bien sûr. Non, mais la première partie de l'étape, c'était vent face, trois quarts face. Là, c'était vraiment gaspiller de l'énergie pour rien. Mais à partir de Vitré, d'ailleurs, personne a souligné que j'avais gagné la course de Vitré en 2009. Hein, Marial parle de Brian Coquard en 2016. Ma première course pro, elle s'en fiche que j'ai gagné à Vitré. Elle s'en fiche complètement. Ouais, voilà, je retiens.
C'est moche,
quand même.
C'est
quand même une très belle course. Les perfs de Jérôme Coppel.
Il ira vite le quiz, mais quand même, il y a Vitré dedans.
Tu parles que des victoires. T'as beaucoup de choses à dire, mais des victoires, on va.
Qui a le plus de victoires de vous deux d'ailleurs? Tiens,
moi je sais pas du tout combien j'ai de victoires par contre.
Ah, il faut regarder sur ProCycling.
10, ils ont dit l'autre fois, je crois.
Je sais pas du tout.
Comme quoi, ça nous a vachement marqué.
Ouais. Mais pour revenir
les foules.
Pour revenir à la course, c'est sûr que la première partie était pas du tout à l'avantage des échappés. Par contre, après, ils ont tenté leur chance. Malheureusement, ils étaient pas assez nombreux, ils étaient que deux, mais ça aurait pu être un bon coup. C'était, oui, une échappée peut-être publicitaire, mais c'était pas une échappée forcément vouée à l'échec dès le début. On a vu que derrière, il y en a eu pas mal qui sont tombés quand même, il y a eu des chutes. Si ça avait été un leader, ça aurait peut-être attendu un petit peu, et on sait pas. Ils ont quand même eu jusqu'à une minute dix d'avance au maximum. S'il y a un pépin avec un leader derrière, ils reprennent facilement 30-40 secondes. Après, faut se réorganiser, et ça aurait pu le faire. Il aurait fallu qu'ils soient au moins 4-5, voire même 6, mais voilà, c'est quand même une belle initiative des deux coureurs français de la Total Energy.
Bah oui, ils ont tenté le coup, ils ont évidemment ravi leur patron Jean-René Bernodeau, qui était ravi de voir ses coureurs montrer du panache aujourd'hui dans cette 8e étape du Tour de France. On écoute Gilles.
Il faut la belle fierté dans le sport et aujourd'hui il fallait qu'ils existent. Mathieu est un grand coureur, Mathéo Verschi est un grand coureur. Deux coureurs jeunes qui sont en pleine progression, qui ont un pic de forme bien maîtrisé par notre pôle performance. Donc aujourd'hui on n'a pas de regrets. L'équipe Total Energy s'est battue, elle a mouillé le maillot et ça coûte pas très cher, mais ça donne cette belle fierté nécessaire au sport.
Ça coûte pas très cher, c'est vrai, ça a pas coûté très cher, même en énergie. Ils ont fait quoi, 60 kilomètres en échappée?
Ouais, oui, à peu près une soixantaine de kilomètres, mais t'es toujours mieux à l'avant sur une étape comme ça. Ils ont pas vraiment de sprinter désigné, l'équipe Total Energy.
Bah, il y avait Emilien Janière, mais qui est à la maison.
Voilà,
la première
exactement. Donc, c'est pas eux qui vont rouler à l'avant du peloton, qui vont amener le sprint. Donc, t'es mieux à l'avant que derrière à soit rien faire ou risquer la chute. Là, ils ont été devant des millions de spectateurs devant, tous les deux copains en train de se faire un petit duo normand. Bah, t'es mieux devant que derrière. Pour l'équipe, c'est bien. On sait qu'ils sont encore sous contrat avec Total jusqu'en 2026, mais on sait pas vraiment la suite. Donc, ça permet d'avoir de la visibilité. Ces deux coureurs-là, bah, demain, c'est normalement encore une étape au sprint sur des étapes très difficiles. Est-ce qu'ils vont être à l'avant? Même si Mathieu Burgodo sur une étape.
Comme lundi,
qui a un bon punch, qui grimpe plutôt bien. Mais faut prendre les occasions quand elles sont là. Ça passe vite, un Tour de France. Les occasions, t'en as pas 50 000 pour des coureurs de ce profil-là. C'est très bien, ça l'a pas fait, mais ça aurait pu le faire.
Et pourquoi les autres équipes françaises n'ont pas voulu se mêler à cette tentative d'échapper? Il y a des intérêts autres, par exemple chez Arkea, ils ont Vauclin.
Arkea, ils avaient surtout Desmarres, j'imagine aujourd'hui, ouais, qui misaient encore sur Arnaud Desmarres, mais pas que les équipes françaises, des équipes étrangères aussi.
Pour un sprint comme ça,
ça paraît compliqué. Là, il fait 20e aujourd'hui. Oui, quand ça frotte beaucoup, il a un peu plus de mal qu'avant, Arnaud.
On parle de Arkea BNB, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais quand bien même il y avait des sprinteurs dans une équipe, par exemple, chez Cofidis, il y a Brian. On peut protéger Brian. Mais rien n'empêche d'envoyer un autre coureur. Ils sont pas sept à envoyer le sprint pour Brian. C'est, et donc, pourquoi pas?
Oui,
Se remettre la tête à l'endroit avec des actions comme celle-ci qui coûtent pas. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Jean-René. Ça coûte pas en énergie. C'est plus positif que négatif. C'est pas là. On pourra pas se dire, ah, ben, il a pas fini à Paris parce que entre Saint-Mingrand et Maillet et Laval, il a fait 60 km d'échappée. Non, si tu laisses trop d'énergie entre Saint-Mingrand et Laval en échappée et que tu finis pas le tour, c'est que tu n'avais pas le niveau pour finir le tour. Puis encore une fois, c'est très positif pour la tête d'aller voir fendre la foule, passer la ligne des 20 derniers kilomètres d'une étape du tour devant en tête avec la caméra, l'hélico, etc. On est dedans, on n'est pas acteur second rôle ou voire figurant à l'arrière du peloton où on ne saura jamais qui était devant. Donc c'est très bonne initiative. Ils ont voulu faire sauter le plafond de verre en passant vitré.
Comment ça se passe d'ailleurs? Comment se construit une échappée là? Ils ont décidé tous les deux de la même équipe. Est-ce que tu peux essayer de voir avec une autre équipe pour essayer de trouver des alliés et partir ensemble?
C'est justement ce que j'allais dire. J'imagine que là, ils sont pas consultés avec d'autres équipes. Nous, ça se faisait beaucoup à notre époque, même avant le départ. Ok, vous avez prévu de vous échapper. Ok, bah allez, on tente notre chance. Et puis on essayait de réunir 4-5 mecs d'équipes différentes. Je pense que ça se fait pas trop. Eux, bien sûr, ont dû se parler entre eux. Ils ont dû se dire, bah allez, on tente notre chance. Et puis solo, bah de toute façon, si tu pars solo, c'est sûr que t'es mort. Donc autant partir à deux. Mais ils le disent eux-mêmes, ils auraient bien voulu avoir du renfort. Là, ça aurait peut-être pu être sympa d'aller voir Cofidis, justement, peut-être Arkea, et dire, bah allez, mettez-en un aussi avec nous. On y va, on se fait un petit groupe de 4-5. En plus, ils ont pas roulé. Alors quand t'attaques, tu roules vite pendant un petit moment jusqu'à faire le break. Quand ils ont eu 30-40 secondes, après ils se sont mis à leur rythme et le peloton s'est calé sur leur rythme à eux. D'ailleurs, on a vu à un moment donné l'écart qui a remonté à une minute. Là, ils ont commencé à accélérer un petit peu. Donc à 5-6 coureurs, ça pouvait être jouable encore. C'était très compliqué vu le final, c'était quand même des grandes routes, les trains étaient bien organisés, mais c'était pas impossible. On sait jamais ce qui peut se passer dans le peloton. Mais souvent, enfin maintenant en tout cas, ils se parlent plus trop les coureurs entre eux pour créer des échappes. Voilà, dans les bus, les briefings sont faits. On doit mettre un gars dans les échappées. Des fois, c'est on en veut un s'il y a 4 mecs à l'avant, mais comme c'est le même briefing dans
partout,
tous les bus,
s'il y en a 4, on en met un.
Voilà, ouais. S'il y en a 4, on en met un, mais s'il y en a 3, il n'y a personne qui y va.
Ce qui est fou, c'est qu'il y a des étapes où tu as une baston pendant une heure et demie, où tout le monde tente sa chance et vraiment, c'est un coup de bol si ça finit par sortir plutôt. Et là, dans une étape comme ça, il y en a deux qui, au bout de 80 km,
ouais,
font leur coup. Alors que tu sais que les autres étapes, mis à part celle remportée par Ellie, mais autrement, c'est réservé finalement aux grands champions de ce Tour de France. C'est ce qui s'est passé durant cette première semaine. Les autres étapes, c'est réservé aux sprinteurs. Mais certaines voient beaucoup de gens tenter leur chance et d'autres... aucun.
Bien sûr. Mais alors les étapes comme aujourd'hui, comme ça sera le cas demain pour les sprinteurs, là, même quand t'es coureur, des fois dans le bus, t'as pas trop envie d'y aller.
Hier, tu savais aussi que c'était quasiment réservé aux champions.
Oui, mais il y a eu de la castagne hier pour y aller, mais oui, peut-être parce que c'est mythique, c'est le mur de Bretagne, parce que tu sais pas. Hier, on se doutait que les Cador allaient se jouer la victoire, mais on n'en était pas sûr à 100% non plus.
Quand tu aujourd'hui, ils ont contrôlé.
Oui, mais avant l'étape, tu le sais pas.
Avant l'étape,
dans le bus, tu le sais pas, donc tu te dis j'ai peut-être une chance. Aujourd'hui, t'as zéro chance. Alors, tu sais comment ça va se passer, tu sais que ça va. Enfin, zéro chance. Ouais, tu sais que les sprinteurs vont y aller pour le sprint. Si Mathieu Van Der Poel hier dit ouais, c'est tombé les gars, j'ai des jambes en bois aujourd'hui après la journée que j'ai fait la veille, on laisse tomber. Bah, sûrement que l'équipe de Tadej Pogacar aurait quand même roulé, mais peut-être que Tadej aurait dit tant pis, et puis ça bataille pendant une heure et demie, les gardes à 1:30 pendant encore une heure et demie, puis d'un seul coup ça fait rideau et ça prend 7 minutes. Aujourd'hui, ça sera le cas demain aussi, t'as aucune chance.
Sauf que hier par exemple, avec les images, parce qu'on le sait, les équipes on les antennes, on a télé.
Starlink, alors,
j'espère que la Starlink elle marche mieux que la nôtre, mais a priori ça fonctionne dans les voitures. Très vite, GG, on peut aussi voir les génies qui sont dans les voitures, là, les directeurs sportifs, dire, on arrête. On voit que UAE contrôle, les gars, on arrête d'attaquer, ça sert à rien. Les mêmes génies, j'espère qu'ils vont demain prendre conscience qu'il y a quand même un grand sprinter à l'avant qui a quand même mis aujourd'hui ce qu'il fallait pour bien confirmer qu'il était le plus fort. Tim Merlier avait eu un souci mécanique. peut-être que des équipes qui ont roulé aujourd'hui, qui ont maîtrisé un peu la chasse, j'espère qu'ils vont dire, bon, et nous les gars, on est deux rangs derrière, allez-y, roulez, on viendra sur le final, s'il y a le feu, pour placer nos sprinteurs, mais débrouillez-vous. Est-ce que la solution pour un sprinteur de seconde zone, c'est pas déjà celle-ci? Et si il n'y a qu'une équipe qui assume, c'est-à-dire peut-être uniquement Lidl Trek, parce que, on le rappelle, l'équipe de Merlier, c'est aussi celle de Remco, bah, ça va ouvrir des possibilités à d'autres équipes, à des équipes comme aujourd'hui l'a fait Total Energy, de se mêler à ça. Israël, Première Tech, aujourd'hui.
Bon, ils ont Ackermann. Ackermann.
On les a vus dans le final aider Ackermann.
Non. Non, mais tu sais comment c'est. Vous restez autour du sprinter, vous voilà. Mais par contre, demain,
mais
ça
prenons,
peut être.
Prenons. Quand on est coureur cycliste, moi, ce que je leur demande aux coureurs, et on avait ce débat ce matin. Prenez vos responsabilités. C'est à vous le vélo, la course vous appartient à vous. Répondre à des consignes, oui, mais être un mouton, non.
Oui,
ils peuvent aussi parfois. Ils vont pas se faire taper dessus parce qu'ils ont fait 50 bornes devant.
Mais tu vois, on a eu la même discussion quand Tim Merlier a gagné et on a fait après le tour des équipes, etc. Et il disait, ouais, le tour est long. Vous savez, ça roule très vite. On le voit depuis quelques jours. Ce matin, au départ, dans les paddocks, les directeurs sportifs eux-mêmes espéraient ce scénario-là, hein, qui est pas d'échapper, que ça roule pas trop vite pour que les mecs passe un peu la cerise. Donc le tour est long. Demain, ça va être un peu différent parce que les étapes de plaine, ok, c'est pour les sprinteurs, on le sait, ils vont contrôler la course. Mais si t'as du vent, attention, on en parlera après. Et dès qu'il y a le moindre risque de bordure, c'est différent. Tu vas avoir un coup d'avance, c'est pas pareil.
D'un autre côté, franchement, est-ce que l'équipe Total Energy n'a pas tout gagné sur ce
match? Ah ben, elle a tout gagné.
Même s'il n'y a pas eu de victoire d'étape. Mais t'as le prix de la combativité. Tu as les images de ces deux coureurs et le podium à l'arrivée. Franchement.
Elle a tout gagné.
Je ne comprends pas l'attitude d'autres formations qui n'ont pas de sprinteurs de vraiment de très haut niveau ou de leader du classement général.
Aujourd'hui, t'as que deux vainqueurs, hein. T'as Milan et l'équipe Lidl Trek et t'as Total Energy. C'est les deux seuls vainqueurs de la journée. Bah, après, les leaders, oui, pas tomber, garder le maillot jaune, etc., etc. Oui. Mais sinon, on a vu du Total Energy. Ben, toute la fin de l'étape, à partir de 80 kilos de l'arrivée, les 60 kilomètres, on a vu que deux mecs. Donc les plans, c'est les deux échappés et c'est un petit peu la tête du peloton. Puis après, on a vu le sprint final. Donc en plus, c'est rare d'avoir deux coureurs qui sont désignés plus combatifs. Donc c'est encore un truc un peu plus exceptionnel. Et d'un coup, t'en as deux sur le podium. Et puis quand t'es jeune, Mathieu Burgonneau, Matteo Vercher, purée, tu montes sur un podium du Tour de France. C'est pour être le plus combatif. Ils ont pris de la télé toute la journée. Il y a tout le monde qui les a vus parce que on parlait tout à l'heure Jonathan Milan qui va rentrer dans une autre dimension. Kevin Vauclin, il fait un super tour. Mais si on regarde factuellement, il n'a pas gagné d'étape. Il est placé au classement général. Mais c'est là où on voit que le tour, c'est un amplificateur d'émotion et de popularité. S'il avait fait ça au Giro, ce qui aurait été énorme, Kevin Vauclin n'aurait pas eu la même popularité. Donc Matteo Vercher et Burgodo, bah, demain aussi, ils auront pris de la popularité. Franchement, c'est tout bénef pour eux et pour leur équipe.
Et d'autant que Maria Azé a fait plier le jury du classement de la combativité, Maria. Raconte-nous comment ça s'est passé, comment tu as réussi à convaincre Jalabert et compagnie de voter conjointement pour Burgodo et Vercher.
C'est pas, il y a pas moyen de, j'ai pas essayé de les convaincre.
Ah bon,
tout le monde était non.
Ça, donc c'est des fausses rumeurs.
C'est vous qui aimez, vous êtes gentil, vous me flattez, mais bon, tout le monde était un peu du même avis, personne ne savait trop comment départager Burgodo.
C'est rare hein que c'est très rare. Le prix soit décerné conjointement.
C'était arrivé à Tony Martin et Julien Alaphilippe sur la 16e étape du Tour 2016. Voilà, c'est pas arrivé depuis. C'était arrivé une première fois en 2011. Ouais, enfin, c'est arrivé quelques fois, mais.
Je crois que c'est que la troisième fois de tête. Mais il faut souligner, moi je trouve très belle initiative de mettre deux coureurs comme ça plus combatifs. Et la même chose pour le jour où vous n'avez pas désigné de combatif. Ça, oui, je trouve ça très bien aussi. Le prix du meilleur combatif, c'est pas un dû. Tu dois aller chercher ton prix du meilleur combatif. T'as pas d'attaquant, t'as pas de meilleur combatif.
Alors moi c'est pas pour flatter Maria, mais depuis qu'elle est rentrée dans ce jury, franchement, on s'est moqué.
Ce jury a du caractère.
On s'est moqué du jury régulièrement pendant quelques années parce que de temps en temps, franchement, on comprenait pas leur choix. Là, ils font un sans faute jusqu'à présent. Bravo Maria.
C'est le game changer du jury.
On va les écouter nos héros du jour, Mathieu Burgodo et Matteo Vercher, donc qui sont montés. Tous les deux ensemble sur le podium du Tour de France aujourd'hui pour aller chercher leur prix de la combativité.
ça sera un souvenir qu'on va garder tous les deux toute notre vie. Voilà, partager un podium avec un pote sur le Tour de France, c'est quelque chose d'unique. Et voilà, je suis vraiment très 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 content de ce qu'on a fait, même si bon, voilà, il y avait très peu de chances qu'on aille au bout. Mais quand l'écart est remonté, on y a cru un petit peu. Et voilà, on a pris quand même beaucoup de plaisir avec le public et on est quand même content de la journée.
Voilà, je sais pas si c'est Burgodeau ou Verchet qu'on a écouté.
Mathieu Burgodeau.
C'est Burgodeau là. Ouais. Voilà.
Avec le petit accent de Noirmoutier.
De Noirmoutier.
Fils de marin pêcheur Noirmoutrin.
Ah.
Eh oui. Eh oui.
Voilà, 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 qui explique tout. Ça, la combativité, c'est chez les pêcheurs, c'est quelque chose d'important. 19h41. Non, je rigole pas.
Oui, c'est un métier pénible,
c'est un métier
de
dur.
Nous, on fait la pêche à pied avec Gégé, la pêche au moule.
Avec les grandes bottes.
Exactement.
C'est important.
Pas sûr que vous pêchiez grand-chose.
Si.
Pas lourde, les couteaux et compagnie.
Évidemment.
C'est bon ça. Allez, on va pas. C'est bientôt l'heure de manger, mais pas tout de suite. 19h44, on a encore un dernier talk avant de partir. Prendre la route pour rejoindre notre restaurant. C'est important quand même.
Réservé par Pierre Leroux, évidemment.
C'est son travail du jour.
Quand on est en repos un jour sur deux, on a le temps de voir un peu quels sont les meilleurs.
T'as intérêt à être bon, hein, parce qu'il avait que ça à faire de la journée.
Oh là 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 là, quelle attaque.
Attaque violente. Dans un instant, on va s'intéresser à ceux qui avaient été blessés hier, notamment Joao Almeida. Comment a-t-il passé la journée? Et puis, on s'intéressera également à l'étape de demain, parce que notre ami Jérôme Coppel a préparé cette étape qui s'annonce de toute beauté demain. Entre Chinon et Châteauroux, on va visiter la maison du bourreau de Chinon quand même. C'est pas rien. Petit Marco.
Il va ramener tout le monde demain.
Très bien. Eh ben on l'attend. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Pour la dernière ligne droite de cet After Tour, ce soir toujours en direct de Laval et de notre magnifique champ. On pourrait vous envoyer une photo, c'est super. On s'est vraiment régalé aujourd'hui. Il fait une chaleur vraiment marquante aujourd'hui, torride. Au moins 40 degrés dans le camion, mais on est bien quand même, hein, Jérôme.
Un temps breton.
On a quitté la Bretagne quand même. C'est pour ça
alors il était ce matin quand même.
Oui, mais là on est loin, très loin de la Bretagne.
Jérôme, il a mis sa petite laine, il a pas chaud. Lui.
Ouais, quand t'es affûté, qu'est-ce que tu veux?
C'est ça, c'est pas les cheveux qui te tiennent chaud par contre.
Ah, non. C'est sûr. Ça, c'est sûr.
Alors, on va s'intéresser à ceux qui ont été blessés dans leur chair hier, notamment Joao Almeida, le lieutenant de Tadej Pogacar, sérieusement blessé dans une chute à quelques kilomètres de l'arrivée. On était inquiets, Maria, pour lui aujourd'hui. Et finalement, même s'il nous a donné quand même quelques signes d'inquiétude en début d'étape et qu'on l'a vu quand même sérieusement amoché, Jérôme pourra nous en parler, il était à côté de lui. Il a tenu son rang aujourd'hui, il a terminé cette étape et c'est une journée de passé. Et pour lui, c'est
important. C'est énorme. C'est énorme. On avait eu le diagnostic hier. Il avait une côte cassée. C'est quand même. Alors, ça n'empêche pas de faire du vélo, apparemment. Mais il a été assez courageux. Il a pris le départ ce matin. Et bon, Jérôme, tu pourras nous en parler un petit peu mieux. Tu l'as vu. Mais il était quand même bien, bien amoché, Joao Almeida.
Il est très, très amoché. Il y avait beaucoup, beaucoup de coureurs avec des pansements. Il y en a deux. C'était vraiment des momies. Donc, Joao Almeida et Louis Barré, notre français. Mais Joao Almeida, bien sûr. Il était dernière position du peloton, ça finalement ça change pas vraiment d'habitude, mais dès qu'il y avait le moindre petit coup de cul ou la moindre accélération, il sautait pas parce que il voulait aller dans les voitures et puis lisser un petit peu son effort, il sautait parce qu'il y arrivait pas. Et c'est vraiment le petit doigt qui avait l'air de le gêner. On parle souvent de sécurité, moi je peux pas comprendre comment t'es coureur cycliste professionnel et que tu roules sans gants sur les courses. Alors là ça a rien changé si son doigt est un peu cassé, mais le nombre de coureurs qui sont sans gants, qui tombent après qu'on les mains râpées, comment tu fais pour tenir ton guidon? Donc tu tombes, après t'as les mains arrachées, du coup tu tiens moins ton guidon les étapes d'après, c'est le cercle vicieux. Je comprends pas qu'on puisse rouler sans gants en course. Et il y en a plein, hein, que tu les enlèves au pied du dernier col parce que ta chaussure, c'est pas ça qui te tient chaud, c'est pas les gants, ils sont tout aérés maintenant, c'est rien ça. Et puis Joao Almeida, bien sûr, il avait son petit doigt, sa côte, mais il avait la paume de la main aussi arrachée. Alors c'est marrant parce que il était vraiment dans le dur dès que ça montait, dès que ça accélérait, mais son faciès serein, tu avais l'impression qu'il forçait pas du tout, alors qu'il était vraiment dans le mal dans les voitures. Louis Barré aussi, bah alors là tout momifié complètement. Warren Barguil, on n'a pas trop vu, mais il a eu des points de suture au genou après la chute d'hier. Et Wayne Costiou aussi, le héros d'hier. Comme il y avait vraiment beaucoup beaucoup de coureurs bandés aujourd'hui.
Ouais. On aurait pu leur attribuer à eux si
Mathieu
Burgaudot n'avait pas été à l'avant. On aurait pu leur attribuer un espèce de prix de la combativité d'honneur. Parce que je pense que.
Mais là, tu faisais un peloton qui montait sur le podium.
Bien, d'ailleurs, Almeida a récupéré un autre prix aujourd'hui, le prix du meilleur équipier cette semaine pour équipier de Pogacar.
Ouais, il a salué Pogacar d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas quels sont les critères pour obtenir ce prix.
Alors, justement, je ne sais pas les critères non plus, mais il a été élu meilleur équipier des 6 premières étapes du Tour de France par le public, avec 59% des voix, devant Tim Wellens 26%, Quinn Simons 9% et Sylvain Dillier 6%. Alors c'est le public, et apparemment ils mettent après les suiveurs portugais ont massivement voté pour leur représentant. Voilà, c'est la solidarité portugaise.
Apparemment, ça a été lancé en 2022 pour valoriser le travail des lieutenants. Pas toujours perçu par le grand public.
Je trouve que Nils Polite et Sylvain Dillier, par exemple, auraient mérité d'être plus haut dans le classement parce qu'ils en font des kills en tête de peloton, le nez dans le vent. Ouais. Eux, ils auraient mérité d'être un petit peu plus haut, mais c'est la communauté aussi qui fait ce classement-là.
Quinn Simons, gros guerrier quand même, parce qu'il a été devant en Normandie l'autre jour sans trembler, il en a mis partout sur la route. Et aujourd'hui, il n'a pas attendu 10 minutes pour prendre la tête du peloton. Puis pas fait un demi-tempo.
Pour l'instant, il pourrait être désigné super combatif. Il est dans le coup.
C'est un gros moteur. Des fois, il faut qu'il branche tous les câbles là-haut pour courir intelligemment et rouler intelligemment, comme il sait le faire. On l'a vu au Tour de Suisse. Quand il court bien, il est fort, il gagne. Il n'a pas du tout le palmarès pour le moment. Il est jeune aussi, mais pour le moment, qui va avec son niveau et la puissance qu'il est capable de dégager.
Les UAE, encore une fois, malchanceux aujourd'hui, après la chute d'Almeida hier. C'est Soler qui est allé au sol aujourd'hui, même s'il n'a pas tapé très fort. Il est reparti sans problème. Mais quand les lieutenants très importants de Pogacar chutent régulièrement, tu te dis, il y a peut-être un chat noir.
C'est peut-être Jonas Vingegaard qui a pris une poupée vaudou qui s'amuse à la piquer dedans. Mais c'est vrai que quand tu es dans une mauvaise spirale, Almeida, Soler, ça n'a pas l'air trop grave. Mais c'est jamais bon signe, surtout quand tu vois qu'en face, dans l'équipe rivale, t'en as que tu pensais avoir enterré, qui finalement reprennent des couleurs, reprennent vie, et tu te dis est-ce que l'équilibre des forces n'est pas en train de s'inverser dans les équipes.
Ouais, Wout van Aert, ça fait plaisir de le revoir.
Ah oui, ça fait très plaisir, on l'a vu dans le final.
Vendu d'ailleurs dans votre équipe Fantasy,
Moi je l'ai gardé.
C'est Bruno Fontaine qui l'a vendu hier soir.
Moi je l'ai vendu avant-hier pour acheter Almeida hier matin. Donc ça, c'est du pif. C'est du pif, ça.
Non, mais on a vu surtout un Wout van Aert concerné dans le sprint, on l'a vu, il a fait ses choix lui-même, son équipe avait décidé jusqu'aux 5 km de protéger Vingegaard, ils se sont mis à droite de la route, et lui très vite, il a certainement dû entendre les paris RMC dans l'après-midi, s'est mis dans la roue de Gaiden Grooves, le favori
de Jérôme Pinot. Il n'a pas entendu les paris RMC, il a entendu Jérôme Pinot, c'est différent.
Exactement. Il a surtout pris la roue du mec qui suivait son rival de toujours, Mathieu Van Der Poel, parce qu'il a étudié l'arrivée, Wout van Aert, il a dû se dire,
c'est peut-être pour moi.
Sur un parcours comme ça, Mathieu va envoyer Grooves, qui va envoyer donc très fort.
Mathieu va faire sauter Grooves de la roue,
Et il s'est pas trompé parce qu'il a fait une très belle troisième place. Il peut pas rivaliser avec Jonathan Milan dans le sprint, on le voit, il monte à peine au dérailleur arrière, mais il est là, il est dans la roue, c'est quand même un autre Van Aert qu'au départ à Lille. Donc s'il monte en pression comme ça, la deuxième semaine lui convient parfaitement. Donc l'arrivée à Toulouse, attention à Van Aert. Et puis il va être un équipier précieux. Rappelons-nous du phénomène Wout van Aert, l'année de la victoire, de la dernière victoire de Vingegaard. Il s'était écarté à Luzardiden à 5 km du sommet. Il n'y avait plus personne dans la roue.
Maria, on vient de recevoir les décisions du jury des commissaires.
Il doit y avoir du carton jaune.
Pas de carton jaune, mais Jonathan Milan prend quand même une sanction, 10 points au classement par point, amende de 500 francs suisses.
On lui en retire pas sa victoire d'étape, mais on lui enlève des points.
On lui enlève juste des points. Ouais,
pour
obstruction d'un coureur. Jonathan Milan. Je vous donne les autres, comme ça vous les avez. Paul Penouet qui prend aussi une pénalité pour abri derrière un véhicule.
Oui, je pense que là.
Voilà, avec son directeur sportif. Et enfin, un petit comportement inconvenant pour Arnaud Dely uriner en public au cours de la course.
Ça leur plaît beaucoup, voilà.
Alors qu'Arnaud Dely a sorti la main du guidon dans le final pour écarter un.
Non, mais là, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave.
Tu as le droit de sortir la main, mais pas autre chose.
Uriner en public, c'est vite.
La main pour pisser, c'est pas possible. La main pour écarter un coureur, voilà. C'est possible. Nickel.
Et d'ailleurs, dans la file des voitures, on voit plein de trucs. Juste à côté de Victor Campaner, je me demandais ce qu'il faisait. Son bidon, il ouvre. Alors lui, il a uriné dans le bidon. Donc quand il l'a acheté, que les spectateurs ont dû se ruer sur le bidon en pensant que c'était super. J'espère qu'ils l'ont ouvert avant de le goûter quand même.
Les coulisses du Tour de France.
On est bien dans l'after tour. Allez, on va redescendre sur Terre. On va s'intéresser à la 9e étape du Tour demain. Donc entre Chinon et Châteauroux, quasiment le même nombre de kilomètres qu'aujourd'hui, Jérôme. 174. Et c'est un copier-coller de celle d'aujourd'hui ou non?
Alors, pas tout à fait. Quasiment le même nombre de kilomètres, presque le même dénivelé positif. Par contre, il y aura le premier sprint intermédiaire au bout de 24 kilomètres demain. Donc là, peu de chances de voir une échappée se former très vite si Jonathan Milan veut aller chercher les points au sprint intermédiaire. Et surtout, ce qui change, c'est la direction du vent. Là, il y aura vraiment vent arrière, trois quarts arrière. Et on sait qu'en direction de Châteauroux, il n'est pas très fort. Il est comme aujourd'hui, mais il est beaucoup mieux exposé, par contre. Donc on sait qu'en direction de Châteauroux, ça peut toujours créer des dégâts. Châteauroux qui sera renommé Cavendish City, d'ailleurs, pour l'occasion, en hommage au Cave. C'est trois victoires à Châteauroux.
Bon, demain, quiz sur le Cave.
Hein. La GG va nous battre à plate couture. Mais attention, hein, parce que cette étape, les 40 derniers kilomètres sont les mêmes que l'arrivée en 2011, quand Bradley Wiggins s'était tombé. J'étais pris dans la chute, c'était cassé la clavicule.
Moi aussi, j'étais là.
Et ça n'avait pas beaucoup borduré. Mais juste la nervosité, il y avait une chute massive énorme. Et là, par contre, le final, beaucoup moins dangereux qu'aujourd'hui. Tout plat, 1,6 km de ligne droite. Route très large, 6 mètres, pas de problème. Le favori pour moi demain revient de nouveau. Enfin, le leadership revient de nouveau à Jonathan Milan.
Jonathan Milan, donc pour Jérôme, rapidement. Jérôme Pinault, vous voyez qui s'imposait?
La revanche de Tim Merlier.
La revanche de Merlier. Ok, Maria?
Jonathan Milan
aussi. Ok, ben moi aussi, Jonathan Milan.
Caden Groove,
très bien. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question de cette magnifique 8e étape du Tour de France. On espère que demain, on va se régaler. On se régalera, ça, on en est certain, lundi 14 juillet pour cette grande étape, donc en direction.
Ça risque d'être un feu d'artifice.
Là, ça va être. Pas le bouquet final, mais ce sera un beau passage de ce Tour de France. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 13h. Bah oui, le dimanche, c'est 13h, évidemment, parce que surtout, c'est une grande étape en bois. Ouais. Donc, on va pouvoir en profiter encore un peu plus longtemps, pendant 5h. Et puis, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Simon Dutin pour l'after, le vrai, l'after foot. Bonne soirée, à demain. Ciao.
RMC, l'after tour.